France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Les airs roulés de la bourguignonne, racontés par quelqu'un qui a longtemps pensé qu'on ne pouvait pas l'aimer, elle, en tout cas l'apprécier, en dehors de France, sans connaître par exemple Saint-Sauveur, Colette. Colette racontée par Julia Kristeva, c'était en août 2003 sur France Culture. Voici le premier épisode d'une série de 5.
De l'écriture au féminin. Notre Colette, par Julia Kristeva. Aujourd'hui, l'alphabet de Colette.
Si l'écriture est un portrait, eh ben, rien n'autorise que chaque page manuscrite impose un portrait grimaçant, dénonciateur, mais ressemblant. De 6 à 12 ans, j'écrivais si vite et si mal, avec l'épaule droite de travers, comme tous les enfants à qui on enseignait autrefois que l'écriture couchée dite écriture anglaise, et puis l'index droit tout bossu, crispé sur le porte-plume. Vers ma 13e année, ma chance voulut que l'on mit dans mon village au poste d'institutrice une femme jeune, vive, exigeante, qui se pencha sur mes cahiers et me dit « Oh, quelle vile l'écriture! Et pourquoi ?» Je n'attendais pas ce dernier mot. Pourquoi ? Et je ne sus pas que répondre. Oui, pourquoi ? Cette écriture est inexcusable. Je vous donne une semaine pour la réformer, et c'est amplement suffisant. Adoptez les plumes flamands numéro 2 qui ont un bec large. Ça vous aidera à ralentir, à éclaircir votre écriture. Vous n'avez jamais pensé que être illisible est une grave impolitesse ? Les résultats d'une pareille admonestation furent rapides. Je l'essayai un demi-siècle plus tard sur Claude Chauvière. Claude Chauvière, cette charmante jeune femme de lettres qui avait du talent, qui est morte jeune, enfin c'est une histoire très triste que la sienne. L'écriture de Claude Chauvière vraiment rebutait l'attention. Une écriture fluide, à peine dépliée, significative malheureusement, négligeant les boucles et les barres, effaçant les jambages. Je gagnais à la déchiffrer autant d'irritation que de malaise. Une écriture qui rêvait d'évasion, hélas. Et à ce moment-là, je traitais Claude, naturellement, d'enfant mal élevé. Comme elle avait le sang prompt et un cœur orgueilleux, elle devenait pâle, elle devenait rouge, elle répondait « Madame, j'en serais quitte pour vous délivrer d'une lecture aussi incommode et de la présence en même temps d'une personne sans éducation. » À ce moment-là, comme je l'aimais beaucoup, je l'appelais petite imbécile. Et c'est un mot qu'elle buvait comme la plus douce louange, avec un visage soudain couvert de larmes.
La voix que vous venez d'entendre est celle de l'écrivain Colette, née en 1873, morte en 1954. On vient de célébrer le 130e anniversaire de sa naissance et l'année prochaine marquera le 50e anniversaire de sa mort. L'enregistrement date de 1948. Il a été réalisé au micro de René-Marie Picard pour Radio France. Je voulais absolument vous faire entendre cette voix, la voix de celle dont je vous parlerai cette semaine et que je considère comme l'un des génies féminins du XXe siècle. Je voudrais que vous appréciez son accent, sa couleur, son époque, avant de vous conduire ailleurs, si vous le voulez bien. Car il s'agira bien entendu de ma lecture de Colette, qui paraîtra certainement à beaucoup d'auditeurs, j'en suis sûre, je le crains, je ne sais pas si je l'espère, peut-être bien éloigné de l'image qu'ils se faisaient ou qu'ils se font de celle qu'on appelait de son vivant notre Colette, c'est-à-dire un mythe national. Mais la force, la magie, la polyphonie de l'écriture ne consiste-t-elle précisément à appeler à la projection des lecteurs, à notre différence, à notre passion, à chacun, à chacune, à la mienne. De sorte que les lecteurs retrouvent Colette pour s'y retrouver eux-mêmes et que nous nous laissions séduire par elle pour nous l'approprier, mais dans notre temps à nous, dans nos vies à nous. Vous avez donc entendu Colette, et beaucoup d'entre vous l'ont lu, ce qui n'est pas la même chose. Maintenant, voici ma lecture. Ce sera une Colette que j'aime et dans laquelle je me projette, que je lis et que j'invente, on va dire Colette trouvée, créée. Colette que j'adore, avec ses chattes, ses géraniums, ses rossignols, ses airs roulés de bourguignonne, et que j'enlève, que j'élève dans ces périples et voyages de la nomade que je suis et qui font ma vie à moi, des Balkans à Santa Barbara, de New York à Moscou, Londres, Toronto, et j'en passe. J'ai longuement estimé qu'on ne pouvait pas l'aimer, Colette, qu'on ne pouvait pas l'apprécier hors de l'Hexagone. Trop française, incompréhensible sans Saint-Sauveur et la cuisine de Sido, et pourtant je découvre qu'on l'aime vraiment. Saviez-vous qu'aujourd'hui Colette est lue comme une anti-mondialiste, un écrivain de goût dont on attend qu'elle éveille le goût de ceux qui n'osent pas avoir de goût, qui n'ont jamais eu, ou peut-être qui n'en ont plus. On admire sa discrétion, et oui, la discrétion de celle qui fut pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous, une scandaleuse amoureuse. Amoureuse, Colette, voilà une première question. Et je vous cite ce qu'elle dit dans La Vagabonde, un livre qu'elle a publié en 1910. « Femelle j'étais, et femelle je me retrouve, pour en souffrir et pour en jouir. Que faire ? Écrire, brièvement, car le temps presse, et mentir. » C'est ça l'amour ? On va y revenir. En tout cas, plus que de la voix, bien au-delà de la femme, quoique toujours avec ses plaisirs qu'on dit à la légère physique, c'est elle qui dit cela, bien au-delà de la voix donc, c'est de l'écriture qu'il va s'agir cette semaine. Les féministes se sont reconnues en ces audaces, mais Colette n'avait rien d'une militante et se plaisait même à dire que ces dames, les féministes, ne méritent, je la cite, que le harem et le fouet. J'entends dans ses propos moins un rejet, moins une rebuffade bourrue, que l'insatiable ironie de cette gourmande de la langue maternelle qu'on n'a pas encore appréciée sous son masque de paysanne et sous ses cruautés de femme blessée. Une femme qui a su se défendre et s'imposer. Une pudeur enfin qui tranche avec le marché moderne du hard sex et de l'amour avec un grand A, et dans lequel se fourvoient aujourd'hui beaucoup de ses consoeurs. Elle dit aussi dans un autre livre qui s'appelle « Mes apprentissages » de 1936, « Car il existe un autre plaisir, non point vif mais honorable, de ne pas parler d'amour. » Mais c'est cette impudence d'énoncer, l'expression est de Hegel qui saluait ainsi le neveu de Rameau et qui trouvait que cette impudence d'énoncer caractérise la culture française en général. C'est cette proximité qu'elle a avec nous dans un style toujours savoureux et décrétal qui la rend unique, typiquement française et universellement enviée. Colette vit pour moi dans ses textes, plus complexes et plus insaisissables que sa voix donc, et c'est à partir de son écriture qu'elle se transfuse aujourd'hui dans l'existence de telle étudiante que je rencontre à Jussieu, d'un artiste photographe que j'ai croisé à Chicago ou d'une féministe en Nouvelle-Zélande. Elle renaît, permanente éclosion, dans notre relecture de son œuvre qui célébrait, comme Sido sa mère, un seul temps, celui de l'éclosion. Et je vous lis encore Colette. « C'est dans l'éclosion, dit-elle, que réside le drame essentiel, mieux que dans la mort qui n'est qu'une banale défaite. » C'est là toute Colette. Une joie de vivre au-delà de la tristesse, un appétit de perception, une dévoration permanente des mots et des êtres, un génie qui s'est approprié la langue de sa mère Sido et la musique de Couperin, de Rameau, un génie français. quand j'ai écrit mon livre, qui est en fait une trilogie, Le génie féminin, beaucoup de lecteurs ont eu une réaction étrange. Enfin, une Française après Hannah Arendt et Mélanie Klein, m'a-t-on dit, lorsque ils se sont sentis soulagés à l'annonce du nom de Colette. Et puis, d'autres ont renchéri. Un génie, Colette ? Alors, le génie d'une France surannée est disparu et qu'on préfère oublier. C'était, vous l'entendez, une protestation. Je ne partage pas du tout cette attitude, vous l'avez déjà senti. Je pense que Colette est un être tout à fait présent, elle nous accompagne, parce qu'elle a trouvé un langage pour dire une étrange osmose entre ses sensations, ses désirs et ses angoisses d'une part, et l'infini du monde de l'autre. C'était sa religion, une de ces religions qui nous manquent tant et que certains retrouvent sous la forme de l'intégrisme. Colette, une anti-intégriste, une antidote à l'intégrisme justement par son amour de l'éclosion des fleurs, des ondoiements des bêtes, des apparitions sublimes et des monstres contagieux. Ce langage, qui est celui de ces textes, qui tisse la langue maternelle avec toutes les perceptions de son corps et le monde dans sa complexité, ce langage donc transcende sa présence de femme dans le siècle. Elle est vagabonde, elle est entravée, elle est libre, elle est cruelle ou compatissante, mais elle n'est pas seulement une femme du début du XXe siècle. Son style épouse peut-être ses racines terriennes et son accent bourguignon que vous venez d'entendre, mais en même temps, ce style allège tout cela. Elle allège et son corps, et son époque, et son expérience bien circonscrite dans le siècle passé. Il allège tout ça dans une alchimie qui nous demeure encore et toujours mystérieuse. Et vous savez comment elle l'appelait, cette alchimie ? Elle l'appelait tout simplement un alphabet nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire ? Deux explications à cette recette que Colette nous donne pour comprendre son écriture tout autant que sa cuisine du monde et du langage. Quel alphabet donc ? Comme souvent, cette femme nous offre un récit condensé dont le centre, pas toujours nommé, est Sido, la mer, et dont l'horizon est une sorte d'amour. Elle cite une dernière lettre de Sido, elliptique et tout en rayons joyeux, qui s'adresse à sa fille en l'appelant « mon amour ». Mais la fille, qui, dans le texte dont il s'agit, qui est la naissance du jour, vient de se déprendre de la gravité de l'amour, elle n'est plus amoureuse, elle ne pense qu'à la légèreté, loin, dit-elle, des nuits passionnelles et comparable à la seule naissance du jour. Elle est dans le cosmos, pas dans le couple. Eh bien, elle n'est pas dupe devant ce mot d'amour. Et elle dit ceci, je la cite, « J'ai scrupule cette fois de réclamer pour moi seul un mot si brûlant, le mot amour. Il tient sa place parmi des traits, des entrelacs d'hirondelles, des volutes végétales, parmi les messages d'une main qui tentait de me transmettre un alphabet nouveau ou le croquis d'un site entrevu à l'aurore sous les raies qui n'atteindraient jamais le morne zénith. » Vous avez bien entendu, l'alphabet dont il s'agit, c'est son style à elle. Mais c'est un style qui écrit le monde. Et le monde, à partir de là, devient un alphabet. Le monde se révèle à nous par l'alphabet de son écriture. Écriture et monde coexistent comme les deux aspects d'une même expérience par celle qui écrit dans un état de transport fiévreux, qui est le style et qui défie la langue. Face à cet alphabet solaire, à cette extase de Colette dans les plis de l'être, dans les géraniums, dans les plantes, de toutes sortes, dans les bêtes, parmi les êtres amoureux, etc., et que domine sa mère, face à cet alphabet solaire, il existe un autre alphabet, monstrueux cette fois, que les spécialistes ne connaissent pas trop parce qu'il fait peur, mais il est nécessaire de s'y arrêter un tout petit peu parce que sans lui, Colette n'est pas entière. Il s'agit d'une Colette nocturne qui explore les abîmes de nos identités, qu'elle appelle, et je la cite, « un nauséeux chaos sans commencement ni fin ». Je suis sûre que vous ne vous attendiez pas à cela. Colette radieuse, mais aussi Colette qui explore le nauséeux chaos. Et vous savez qu'elle s'intéressait beaucoup aux monstres et jusqu'à Landru, auquel elle a consacré non moins que 3 articles à cet homme sinistre, dont certaines arabesques, se dit-elle, se lisent comme des caractères d'alphabet. Partie prenante donc de l'empire des sens et de cette sexualité féminine qu'elle définit comme, je la cite, tenez-vous bien, la sexualité féminine est plus éparse que le spasme et plus que lui chaude. Partie prenante donc de cette sexualité féminine, plus éparse que le spasme et plus que lui chaude, l'écriture de Colette formule ces entrelacs de lettres avec une intensité et une retenue qui transforment ces textes eux-mêmes en une puissante arabesque de chair, un chiffre de membres mêlé, monogramme symbolique de l'inexorable. C'est évidemment une phrase de Colette, vous l'avez retenue. Fallait-il être l'étrangère que je suis pour se laisser fasciner par cette sorcellerie, qui ne serait donc pas seulement française, mais peut-être, sait-on jamais, universelle, puisque moi-même je me suis laissée prendre dans ses raies. Alphabet pour alphabet, je me souviens des 24 mai de mon enfance. Vous ne savez pas ce que c'est que le 24 mai. Eh bien, c'est le jour de la fête de l'alphabet cyrillique. Les deux frères, Cyril et Méthode, ont inventé l'alphabet slave qu'écrivent actuellement les Russes, les Bulgares, les Serbes, les Macédoniens et quelques autres. Chargés donc de roses et de pivoines, saoulés de leur beauté épanouie et de leur fragrance qui me brouillait la vue jusqu'à me faire perdre mes propres contours, j'arborais à chaque défilé une lettre différente de l'alphabet slave. J'étais une trace parmi d'autres, insérée dans ce que Colette avait écrit. Je ne la connaissais pas à l'époque, mais je me souviens de cette période et je pourrais dire ces mots. Insérée dans ce que Colette appelle donc une règle qui guérit de tout, on va dire même du communisme, auquel j'étais mêlée sans le vouloir. Et cependant, je me sentais disséminée parmi tous ces jeunes corps, dénudés par le printemps, entrelacés dans les voies offertes aux chants antiques, dans la soie des chemises et des cheveux, et dans ce vent ocre qui, à Byzance, ou dans ce qu'il en reste sur les Balkans où je me trouvais, s'alourdit d'un obstiné parfum de fleurs. Vous reconnaissez là aussi l'univers de Colette. Imprimé en moi, l'alphabet avait raison de moi. Tout autour de moi était alphabet. Pourtant, il n'y avait ni tout, ni alphabet, rien qu'une mémoire en liesse, un appel à écrire qui n'était d'aucune littérature, d'aucun art, simplement une sorte de vie en plus. Une de ces vies dont Marcel Proust disait qu'elle est fraîchissante et rose. Et là encore, il se souvenait, bien avant moi, de Colette. Alors, parlons maintenant d'autre chose que de rêverie. Je reviens à l'actualité, toujours avec Colette. Que le XXe siècle, celui auquel j'ai consacré mes réflexions sur les 3 génies féminins, que le XXe siècle porte à jamais les stigmates de la guerre et de la folie, c'est ce que j'ai analysé en me penchant respectivement sur les génies de Hannah Arendt et de Melanie Klein. Et elles ont montré cette folie de la guerre qui a sévi au XXe siècle avec une radicalité sans égale. Pour avoir décrété la superfluité de certains êtres humains et tenter de détruire la pensée en banalisant le mal, ce siècle de progrès techniques extravagants restera dans la mémoire collective comme étant le siècle de la Shoah. Arrachant à la plus exigeante tradition philosophique des jugements politiques inattendus, Hannah Arendt a dénoncé le nazisme et le stalinisme qu'elle a appareillé dans un même totalitarisme qu'elle a défini comme destructeur de la vie humaine et du monde parce qu'il a pulvérisé l'amour singulier et le lien social qui sont fondés sur le goût, le pardon et la promesse. D'une autre façon, Melanie Klein a montré que le XXe siècle fut aussi celui qui affronta avec une lucidité elle aussi sans précédent la folie inhérente à l'esprit humain. Avec la découverte de l'inconscient freudien, pour la première fois dans l'histoire, la folie est devenue un objet de connaissance. Mais Melanie Klein, à l'écoute des enfants et de l'enfant à nous, a découvert l'angoisse sous-jacente au désir et a remis en lumière l'impact de la pulsion de mort repérée par Freud. Chacune à sa façon singulière et incomparable, Arendt et Klein, deux déracinés, éprouvés par les convulsions de leur époque, ont médité l'horreur de notre temps pour consolider des possibilités de penser et de vivre en créant des liens féconds, des liens politiques pour Hannah Arendt, des liens psychiques et de pensée pour Melanie Klein. À leur nomadisme, à leur décapante réflexion, Colette ajoute une expérience tout à fait différente, mais qui, elle aussi, est un visage de ce même siècle. Son art, dont Paul Morand dit qu'il est un art, je le cite, « minutieux comme d'un primitif », cet art de l'alphabet radieux ou nauséabond dont on vient de parler, cet art de Colette impose et démontre que le plaisir lui-même est possible dans ce siècle de guerre et de folie que fut le XXe siècle. Que ce plaisir est possible si et seulement si il comprend la volupté en même temps que son prolongement dans un alphabet, c'est-à-dire la volupté et la possibilité de la dire, de l'écrire comme une chair du monde. Ces valeurs se sont affirmées dans la vie et dans l'œuvre de Colette comme un gai savoir, enchantant les uns et désolant les autres. Je reçois donc, quant à moi, son expérience, l'expérience de Colette, comme un des legs les plus précieux de la tradition, tout particulièrement de la tradition française. Pourtant, cette femme était aveugle à la politique. Elle était bien loin d'être un exemple de lucidité historique. Je déclarerai même à cette antenne et sans rougir que Colette était une ingénue de la débâcle. Elle préfère ne pas savoir qu'il y a résistance, par exemple, et on y reviendra sans doute vers la fin de cette série. Sous l'occupation, plutôt que de résister, elle emploie sa plume imaginative à aider ses contemporains qui souffrent des rationnements et de pénuries. Elle les aide à mieux se nourrir. Mais c'est seulement en repérant ses limites et ses impasses, ses contradictions et ses paradoxes, que nous serons capables, je pense, de mieux savourer son génie affirmatif dans ce qu'il apporte d'insolite au cœur de la tragédie humaine telle que l'a exhibée le XXe siècle. Colette l'enracinée, Colette l'amoureuse, Colette l'hédoniste, qui exige son droit au bonheur et à tout prix, ces images ne sont pas seulement des contrefaçons dues à l'opinion, mais aussi celles que Colette s'est plu à cultiver. Certains ont essayé de la ridiculiser pour cette joie de vivre, pour ce désir d'être toujours dans la transgression et dans plus de joie. On a parlé, je cite Janine Malige, de quelqu'un qui aurait perverti l'instinct maternel. Marguerite Yourcenar, non moins méchante, mais autrement, parle de Colette comme représentant, je cite, une certaine France aussi compliquée qu'une vieille Chine. Liane de Pougy souligne son infernale méchanceté, alors que François Mauriac trouve qu'il y a trop de dessous de bras chez elle. Méchante remarque, pas toujours vraie. Mais peut-être, pourquoi pas. Ce que je pense, moi, c'est que, avec et contre tout cela, sa vie et son œuvre proposent, me semble-t-il, aux contemporains des plaisirs puissants et des méditations actuelles dont les détails vont nous apparaître au cours de ce voyage cette semaine à travers ses livres. Au risque d'écorner l'image vieille France suropposée à cette paysanne qui fit scandale avant de finir prêtresse au Palais Royal et au jury Goncourt, je propose le résumé suivant que je vous offre pour finir cette émission aujourd'hui avant de conclure avec quelques mots de sa mère, car vous me l'accorderez, qui connaît mieux une femme et surtout une écrivaine, sinon sa mère. Mais voilà déjà le résumé de ce qui va suivre, qui est mon interprétation du parcours de Colette. Je dirais donc que contre les frustrations de sa vie amoureuse, contre les épreuves que lui impose la réalité sociale et surtout la guerre, Colette s'accroche au plaisir de vivre qui est pour elle, et sans distinction, un plaisir d'essence et un plaisir des mots. Je dis bien sans distinction. Sa gourmandise, son fort appétit, privilégie évidemment le goût, au fondement de toute civilisation, mais en contaminant inlassablement les autres sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et toutes les variantes de la sexualité. Eros et Thanatos, la vie et la mort, se mêlant dans une impudeur purifiée par le style. Cet hymne à la jouissance, dont on a loué les accents païens, fleurant bon les ripailles de Rabelais et renouant avec l'insolence de Villon, s'énonce pour la première fois au monde par la voix et sous la plume d'une femme, d'une Française. Et voici ce que dit sa mère, pour évidemment la pincer un peu, mais surtout pour la flatter. Tu es plutôt une femme comme il faut, mais d'un genre particulier, écrit Sido. Tu as le talent d'écrire et d'intéresser le lecteur avec des choses, je ne puis dire des riens, car au fond ce ne sont pas des riens, loin de là. Et je dois même reconnaître que tu avances de 2 siècles à de nombreux points de vue. C'est ça, des riens, mais qui avance de 2 siècles à de nombreux points de vue. Donc, d'une certaine manière, aux yeux de Sido déjà, Colette nous rejoint. Quel meilleur guide que ces propos de Sido, d'une tendresse sans complaisance, et pour cela même prophétique, pour nous guider dans notre lecture de ces riens, grâce auxquels l'écrivain a su recréer sa vie.
C'était « De l'écriture au féminin » par Julia Kristeva. Prise de son, Jean-Michel Coqui. Mixage, Cécile Dume, Olivier Dupré. Réalisation, Marie-Ange Garando.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 août 2003. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, 2e épisode de cette série de 5.